Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission qui s'appelle la chronique culture du département. Comme son nom l'indique, c'est une chronique mensuelle que vous retrouverez tous les troisièmes vendredis du mois. Quatrième vendredi du mois, merci. C'est ma collègue Florence qui me fait signe. Justement, c'est avec Florence et les équipes du département ce mois-ci, c'est Florence, mais les équipes tourneront également. Bonjour Florence.
Bonjour JC.
Alors, en quelques mots, cette chronique culture du département, c'est une chronique que nous allons retrouver une fois par mois, qui va nous permettre de mettre la lumière sur certains événements organisés dans le département de l'Eure. L'occasion de parler aussi du patrimoine, de parler de toute cette richesse du département.
Oui, tout à fait.
Avec des surprises, tout un tas de choses. Et puis je te propose que nous déroulions le premier sommaire. Comme ça, on y verra un petit peu plus clair. Au sommaire de cette émission, justement, nous parlerons de Pierre en Lumière.
Oui, c'est un festival qui a lieu dans toute la Normandie et dont le département est très riche. Vous le découvrirez tout à l'heure.
Nous irons également faire un petit tour du côté de la filature.
Oui, nous avons la chance d'avoir avec nous la chef de la valorisation du patrimoine qui nous parlera de ce qui va se passer à la filature.
Et puis nous irons retourner aux sources aussi, nous retournerons aux sources.
Oui, on va en savoir plus sur tout ce qui se passe à la source en ce moment avec le dispositif Hors les Murs.
Très bien, justement, nous accompagnerons durant cette émission Blandine Ratureau, directrice de l'association La Source. Bon, on va commencer par se dire bonjour. Bonjour Blandine.
Bonjour.
Et puis nous aurons également Catherine R. Laporte, qui est chef de projet de valorisation du patrimoine au département de l'Eure. Bonjour Catherine.
Bonjour JC.
Et puis nous ferons également en fin d'émission un tour sur les événements, un petit agenda pour s'y retrouver sur ce mois de mai qui arrive à grands pas. Et puis, nous avons décidé de mettre une espèce de repère dans cette émission. Nous commençons cette émission avec « Le saviez-vous ?»
Oui, tout à fait. « Le saviez-vous ?» Il y a un château d'Harcourt dans l'Eure, mais il y en a un autre aussi. Dans la Vienne, en fait, un membre de la famille d'Harcourt est allé se marier avec une personne dans la Vienne et a créé du coup un château où on peut retrouver tous les emblèmes de la famille. Maintenant, c'est une microfolie que vous pouvez venir soit visiter lors d'une visite guidée, soit profiter pour visiter le musée numérique lors de la microfolie.
Les microfolies, on en retrouve à Conches-en-Ouche, à Nétreville également, médiathèque de Nétreville. Et j'ai pas le lieu des autres. Est-ce que tu as d'autres lieux de microfolie?
Là, j'en ai pas en tête.
Eh ben, on va rechercher et on vous dira ça. Éric, on t'a pas présenté en début d'émission, également du département de l'Eure.
Bonjour JC.
Tu avais une info sur les microfolies?
Beuzeville.
Beuzeville également. Merci beaucoup Eric. On te retrouve dans un instant juste après le morceau qu'on a choisi, les You Said Strange, mais tu nous en parleras un peu plus précisément.
Oh.
C'était You Said Strange. My Own God, un extrait du dernier EP de You Said Strange, l'EP Tread Your Soul, qui est sorti fin mars, à peine un an après le dernier album, Thousand Shadows, volume 2, voilà, 6 titres, une petite évolution musicale chez You Said, un petit côté quelquefois un peu plus agressif, voire un peu plus cold wave, donc voilà, pas de concert prévu dans l'heure pour le moment, prochain concert annoncé par le groupe, c'est à Nancy fin mai, voilà.
On aura sûrement l'occasion de les revoir sur la saison estivale, sur une scène ou une autre.
Sans nul doute.
Florence, nous avions promis que nous allions parler de Pierre en lumière. Un reportage suivra dans la foulée. Mais en quelques mots, qu'est-ce que ce dispositif, cet événement Pierre en lumière?
Alors, Pierre en lumière, c'est un festival qui a lieu dans toute la Normandie sur le temps d'un week-end, du vendredi 17 mai au 19 mai. Et le gros avantage, c'est que ça a lieu dans des grandes villes, mais aussi dans des villages. Donc, le monde rural, le patrimoine du monde rural est mis en avant. Tous les événements sont gratuits, donc autant en profiter. Et cette année, il y aura une nouveauté. Il y a des espaces naturels sensibles qui vont être mis en avant. Donc, on va découvrir le bâti. Donc, c'est des anciennes pierres, mais tout ce qui se cache dans ces endroits-là. Tous les insectes, les chauves-souris, les lézards, etc. Et il y a aussi un collège qui va ouvrir ses portes. Et ça, c'est une nouveauté. Et on espère que ça va se développer pour que les collèges deviennent aussi un lieu où on peut rencontrer, voir ce qui se passe sur le travail des collégiens.
Cet événement, ce festival même carrément, c'est un festival nocturne pour pouvoir découvrir différemment, pas seulement, c'est ça?
Oui, pas seulement, en fait c'est beaucoup d'animations sont le soir, mais ça peut être aussi la journée, ça peut être une exposition sur l'histoire du village qui a lieu en journée. Ce sont beaucoup de bénévoles qui travaillent pour la mise en œuvre de ce festival et des fois, suivant leur disponibilité, ils ne peuvent pas toujours le soir, donc la plage horaire est très grande entre le samedi de 10h jusqu'à minuit. C'est l'occasion de sortir tout le temps.
Alors justement, pour sortir cette année, il y a de nombreux lieux qui sont proposés pour cet événement.
Oui, il y a 84 sites en tout, dès le vendredi soir, dès 18h. Jusqu'au dimanche, et il y a plusieurs visites un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, à Étrépagny, il y a le maire qui ouvre sa mairie pour montrer comment est le bâtiment, mais aussi pour expliquer ce que c'est que le rôle d'une ville, en fait, quelles sont ses fonctions. Il y a donc les espaces naturels sensibles, mais il y a aussi, par exemple, à Sainte-Marie d'Athèse, il y a une journée médiévale, donc à l'extérieur, et à côté de l'église, et donc dans l'église, il y aura des visites guidées, donc ça mêle un petit peu des animations ludiques avec le patrimoine pour mettre en avant les deux parties du village à Sainte-Marie d'Athèse.
Parce que de toute façon, le patrimoine, c'est vivant. Enfin, tu le soulignais, oui. C'est mettre de manière ludique, mais le patrimoine, c'est vivant.
Oui, tout à fait.
Et justement, ça permet de le faire vivre. 17 au 19 mai, c'est sur cette période-là que ça va se dérouler. Gratuité sur chacune des propositions?
Oui. Après, il peut y avoir des associations pour l'église où ils peuvent demander des dons. Enfin, des dons peuvent être distribués. Bien sûr, les gens peuvent donner, dans les églises s'ils le souhaitent ou dans les autres lieux. Mais en tout cas, pour participer à l'événement, pour en profiter, tout est gratuit.
C'est l'occasion, une fois qu'on a mis les pierres en lumière, de faire la fête également. Beaucoup d'endroits proposeront des animations type concerts, scènes, théâtre ou autre.
Oui, tout à fait. Alors, il y en a certains sur réservation. Donc, le programme est sur le site internet pierreenlumière.fr. Comme le château d'Argeronne, où ça sera le conservatoire de Louviers qui va jouer là-bas. Donc, faut réserver. Mais en tout cas, c'est l'occasion de voir vraiment des lieux. Parce qu'il y a 5% de propriétés privées. Donc, c'est aussi des endroits qui sont fermés d'habitude et dont on peut en profiter pendant ce festival. Donc, à vos agendas.
L'occasion de redécouvrir un peu le patrimoine du département de l'Eure, parce que quand on y vit finalement, on le découvre au fil des événements ou très ponctuellement, l'occasion d'aller faire le touriste chez soi finalement.
Ben oui, parce que souvent on connaît tout ce qui se passe à l'extérieur, mais chez nous on connaît beaucoup moins, donc il faut en profiter et par exemple regarder même le village d'à côté, ça se trouve c'est ouvert pour Pierre en lumière.
On peut retrouver un endroit où on peut faire son parcours du 17, 18, 19 mai. On peut préparer son parcours, j'imagine, de se dire, bah, tiens, je vais visiter ça, ça, ça et ça. Il y a un endroit sur Pierre en Lumière, on retrouve tous les sites?
Oui, sur Pierre en Lumière, il y a tous les sites et il y a aussi des supports programmation qui ont été distribués un peu partout et c'est classé par jour, justement. Donc, il y a un code couleur par jour, ce qui permet de bien visualiser ce qu'on peut faire le vendredi, le samedi ou le dimanche.
J'imagine que le département a saisi cette opportunité pour peut-être emmener des plus jeunes jouer à découvrir le territoire.
Oui, avec
parce qu'il y a toujours les collèges notamment qui.
Oui, tout à fait. Alors là, le collège de Gravigny vont participer à Pierre en Lumière en exposant leurs œuvres justement dans le collège. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'interview de la professeure d'art plastique, Madame Auchard, qui a fait un travail dans les classes de 6e, 5e, 4e et 3e sur les œuvres de Julien Colombier qu'elle a découvert à la Madrerie lors des Journées du patrimoine l'année dernière.
Alors bonjour à tous, je suis Madame Auchard Hélène, professeure d'art plastique au collège Marcel Pagnol à Gravigny. Alors j'ai découvert les œuvres de Julien Colombier par une rencontre qui s'est faite de manière spontanée lors des Journées du patrimoine, puisqu'on a eu l'occasion d'emmener deux classes à la Maladrerie. C'est un bâtiment classé patrimoine ici, local juste à côté du collège, et on a fait cette sortie pour faire découvrir du coup aux élèves à deux classes de 3e les œuvres de l'artiste Julien Colombier. Et donc dans ce cadre-là, on a découvert son travail, on a travaillé sur place, ils ont fait des petites productions sur une thématique que j'avais lancée et on a retravaillé ensuite dans la classe pour finaliser le projet. Donc ça a démarré aux Journées du patrimoine au mois de septembre.
D'accord. Et vous n'avez travaillé qu'avec des classes de 3e?
Non, le projet a démarré avec ces deux classes-là. Et ensuite, au mois de décembre, j'ai été recontactée par Madame Manouvrier Karine, qui m'a proposé de faire venir certaines de ses œuvres dans l'enceinte de l'établissement, donc du collège, et donc de pouvoir les faire découvrir à un plus grand public, puisque là, j'avais emmené que deux classes. Et moi, mon idée, c'était de le faire partager à un maximum d'élèves. Donc, on a monté le projet et elle m'a parlé du projet Pierre en Lumière, qui pouvait intégrer, du coup, ce déplacement d'œuvre, ce prêt d'œuvre pour l'établissement, et ça a démarré un peu comme ça et j'ai élargi le projet à plusieurs classes.
D'accord. Et donc à partir du moment où les œuvres ont été ici,
oui.
Comment vous avez travaillé
alors,
avec vos élèves dessus?
Elles sont arrivées mardi dernier, les œuvres. Donc on les a installées avec Madame Manouvrier et sa collègue Nina. Et ensuite, moi je prends ma classe. J'ai choisi deux classes par niveau, donc deux 6e, deux 5e, deux 4e. Et les deux 3e ont déjà travaillé sur les œuvres à la Maladrerie. Donc avec mes 6 autres classes, je me déplace dans le hall et on travaille sur place, face à l'œuvre. Ils s'installent avec du matériel et avec une consigne précise que je leur donne, ils peuvent créer en regardant les œuvres d'art de l'artiste.
Est-ce que vous avez pu échanger, vous, avec l'artiste ?
Non.
Non.
Non, parce qu'il est à ses prix et on aimerait l'avoir en visio, mais ce n'est pas encore calé.
D'accord. Ce côté-là,
ce n'est pas calé. Mais on a un petit espoir quand même, même après le projet Pierre en Lumière, pourquoi pas. Nous, on est là jusqu'au mois de juillet, donc on peut toujours le voir. Et la voir, ça serait super.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce travail avec vos élèves?
Alors, j'ai beaucoup aimé les œuvres de Julien Colombier et la thématique du végétal, le côté onirique et le travail au pastel gras, ça m'a beaucoup intéressée. Et justement, c'était le moyen pour moi de faire découvrir cette technique aux élèves, concrètement en travaillant avec du pastel gras et travailler sur le thème de la végétation, de l'environnement, tout ce qui est important aujourd'hui. C'est un sujet très important, donc du coup, ça les implique un petit peu. Et là, le côté végétation, ça m'intéresse. Voilà le motif aussi.
Et vous leur demandez de reproduire ce qu'ils voient ou de s'inspirer des œuvres de Julien Colombier?
Alors, soit ils vont faire une capture d'écran, c'est-à-dire qu'ils vont capter un élément, un motif végétal qui les intéresse et ils reproduisent. Et après, on enchaîne une autre démarche avec d'autres consignes pour approfondir un petit peu. Soit ils vont faire un zoom. Pour mes troisièmes, c'était le cas. À la Maladrerie, je leur avais demandé de faire un zoom avant, donc d'aller chercher, extraire, faire une capture. Et pour mes sixièmes, c'est plus l'idée de travail collectif avec des extraits de motifs et plus un travail en classe collectif.
D'accord.
Voilà. Et pour les cinquièmes, quatrièmes, c'est en cours. C'est pas encore bien finalisé.
D'accord. Comment avez-vous découvert Pierre en Lumière ?
Alors, Pierre en Lumière, je l'ai découvert parce que Madame Karine Manouvrier m'en a parlé au téléphone en me disant, pour prolonger la rencontre suite aux Journées du Patrimoine, il existe un projet Pierre en Lumière et si vous voulez, on peut vous prêter les œuvres et du coup intégrer le travail que vous pourriez faire au collège avec les élèves dans ce projet Pierre en Lumière. Donc moi, ça m'intéressait parce que c'est des Journées du Patrimoine, un travail collectif en classe, on arrive à un projet festival ouvert à la culture en général et ouvrir les portes du collège, faire venir les parents, c'est ce qui nous intéresse aussi, et impliquer du coup parents-élèves dans la vie de l'établissement et surtout découvrir un artiste et des œuvres d'art, c'est très intéressant. Alors l'intérêt de travailler autour des œuvres de Julien Colombier pour les collégiens, c'est de découvrir les œuvres d'art, de travailler face à l'œuvre, d'être vraiment dans la rencontre avec l'œuvre d'art. Le fil conducteur du projet de la 6e à la 3e, c'est de la figuration des végétaux à l'abstraction. Donc là, vraiment, vous allez voir le jour de l'exposition et du vernissage le 17 mai, vous allez voir comment les élèves se sont débrouillés face à ces motifs qui sont dans le travail de Julien Colombier et comment ils ont fait évoluer du coup ces motifs vers une problématique artistique qui va vers l'abstraction en fait, qui tend à l'abstraction, ça c'est ma thématique. Et après surtout c'était les faire travailler dans un lieu face à l'œuvre, c'était surtout ça l'intérêt principal, de sortir de la classe aussi, c'est intéressant pour eux, et de faire venir des œuvres dans le collège, c'est aussi un atout, il faut le saisir quand on peut.
Donc Pierre en Lumière, c'est du 17 au 19 mai. Au Collège de Gravigny, ça se passera le vendredi 17 mai de 18h à 19h. Et tout le programme, c'est sur pierreenlumière.fr.
You know, I get mine. You are as you are, but I swear. The ones listen to me. Even if you think you down, stand up and sing along. I will show you a world of
I'm not afraid to die. lead me to take.
C'était Denver, un groupe voilà entre Rouen et Évreux avec les copains Jérémy et Ludo, batterie et guitare. Un groupe qui a beaucoup tourné en 2023, une vingtaine de dates. On attend, on croise les doigts pour peut-être un album et puis surtout de nouvelles dates de concert cette année. Je suis certain qu'on les reverra dans l'heure cette année sur le territoire.
Il ne se passe pas un été sans qu'on nous les croisions.
C'est certain.
De toute façon.
Certain.
Nous resterons à l'affût du coup pour attraper Denver sur scène. Nous poursuivons et nous l'avions promis, nous allons parler de la filature Levavasseur. Nous recevons à nos micros Catherine R. Laporte, chef de projet valorisation du patrimoine au département de l'Eure. Bonjour Catherine. La toute première question, c'est qu'est-ce que la valorisation du patrimoine à l'échelle d'un département comme l'Eure ? Où se cache-t-il ce patrimoine et comment le valorise-t-on ?
Alors on le valorise tout d'abord grâce à des dispositifs tels que Pierre en Lumière qui a été décrit tout à l'heure par Florence. C'est aussi pour nous la valorisation, le fait de faire découvrir les quatre sites départementaux que sont le château d'Harcourt, Gisacom, la filature Levavasseur.
Et il en manque un quatrième, et vous ne le faites pas comme ça. Hein.
Et la maison Bonnard.
Bien sûr.
Il n'y a pas que quatre sites patrimoniaux quand même sur le département.
Non, il y a quatre sites départementaux qui sont au cœur de nos activités en tant que département. Mais on s'intéresse bien sûr à l'entièreté du patrimoine sur tout le territoire en accompagnant les acteurs dans leur projet de valorisation.
Alors, pour vous, c'est très clair. Pour nous, ça l'est un petit peu moins. Qu'est-ce que le patrimoine départemental ? Et l'autre patrimoine, il serait quoi ? National, international, communal ?
Un peu de tout ça. Il y a voilà, les sites, je le disais, qui appartiennent au département. D'autres sites sont gérés par des villes. Il y a aussi du patrimoine national. Il y a des musées qui peuvent être associatifs. Enfin, voilà, toute une diversité de structures et de propriétaires de lieux patrimoniaux.
Du coup, Catherine, vous avez travaillé sur la filature Levavasseur, mais c'est quoi exactement la filature ?
Alors, je pense que le premier qualificatif pour décrire la filature Levavasseur, c'est que c'est un site majestueux et unique en France, qui est situé dans la vallée de l'Andelle, à proximité de trois communes que sont Pont-Saint-Pierre, Douville-sur-Andelle et Radepont. Sur ce site, des bâtiments de plusieurs époques sont conservés et témoignent de l'activité industrielle qui s'y est tenue pendant plus d'un siècle, et plus précisément une activité textile, puisque les bâtiments qui existent encore aujourd'hui étaient dédiés à la filature de coton, c'est-à-dire à la transformation du coton, la matière première, en fil.
On le situe dans quelle époque, en fait, la pleine activité de cette filature ?
Alors, la particularité de ce site, c'est d'avoir en fait une existence qui remonte à la fin du XVIIIe siècle, mais les bâtiments que l'on voit aujourd'hui, les deux bâtiments principaux qui marquent vraiment le paysage, datent de la deuxième moitié du XIXe siècle, des années 1860.
Pourquoi est-ce que ces sites étaient si majestueux ? Finalement, c'était de l'industrie. Aujourd'hui, on se prend un peu moins la tête pour l'industrie. On met quelques agglos, voilà, et ça devient de l'industrie. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une vraie raison pour laquelle ces sites sont si beaux ?
Alors, la première raison, c'est qu'on est quand même au 19e siècle, dans une période...
Il n'y a pas de parpaing. C'est ça, je vois venir.
Non, au 19e siècle, vraiment, l'industrie marque fortement l'activité économique en France. Et il y a une volonté pour, finalement, les patrons de ces industries de montrer leur pouvoir, leur richesse, leur réussite. Alors après, le cas de la filature Levavasseur est encore plus exceptionnel, puisque le projet de Charles Levavasseur, donc construit dans les années 1860, vraiment dépasse... même les autres industriels et donnent vraiment naissance à ces bâtiments qui ressemblent à des cathédrales.
Est-ce que c'est plutôt le proprio mégalo qu'on met en lumière ou c'est vraiment l'air du temps ou cette activité textile qui était particulièrement riche ?
Alors, un peu de tout ça, même si on doit dire que Charles Levavasseur était sans doute un peu mégalo.
D'accord, c'est très bien, hein, ça nous fait de jolis bâtiments aujourd'hui, un joli patrimoine à voir. Parce que c'est étonnant pour la petite histoire, quand on prend la route entre Pont-Saint-Pierre et Radepont, comme vous le disiez, qui passe la route arrière. Je connais un peu le coin, c'est pour ça la route arrière, parce que c'est par là qu'il faut arriver, hein, tout simplement.
C'est vrai, c'est ce qui permet de découvrir les ruines progressivement.
C'est exactement, et on s'en prend plein la poire, quoi, c'est vrai. vraiment, il y a un truc, enfin, désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment, c'est, on s'étonne, on se demande où on est presque, si on le découvre.
Oui, et je pense que c'est pour ça que le premier qualificatif, c'est vraiment majestueux et à la fois beaucoup d'interrogations, parce que quand on voit ça, on imagine effectivement les ruines d'une cathédrale, et non, c'était une filature.
Et du coup, elle a été construite au 19e siècle, mais elle était en activité pendant combien de temps? Enfin, jusqu'à quand?
Alors, effectivement, les deux bâtiments principaux d'architecture néo-gothique très caractéristiques ont été construits dans les années 1860, mais c'est un site qui a fonctionné jusqu'en 1946, et c'est pour ça qu'on trouve aussi des bâtiments des années 1920 encore conservés à côté des deux grandes ruines.
La particularité, puis peut-être le côté historique, c'est qu'en fait, il y a la rivière qui passe à côté, qui était essentielle pour le travail de filature. C'est pas placé là par hasard.
Exactement. En fait, la vallée de l'Andelle est spécialisée dans l'activité textile depuis même le XVIIe siècle. Donc, on voit qu'il y a une utilisation de la force hydraulique, de la force de l'eau au long terme. Et c'est effectivement pour ça que Charles Levavasseur, enfin même son père, s'est installé ici. Et le projet de Charles Levavasseur, qui était monumental aussi en termes de capacité de production imaginée pour sa filature, repose essentiellement sur la force hydraulique et sur la machine à vapeur.
Tout autour de cette filature, il y a d'autres bâtiments qui sont, alors je ne sais pas du patrimoine duquel, mais en tout cas patrimoniaux, on peut dire. Il y a une abbaye à côté, il y a un grand château, un grand manoir pas loin. Pourquoi cette concentration est-elle liée? Est-ce qu'elle est liée entre elles, cette concentration de jolis bâtiments?
Alors tout à fait, l'abbaye de Fontaine-Guérard voisine, qui se visite encore aujourd'hui, date du XIIIe siècle, et c'est en fait ce site-là de l'abbaye qui a été racheté en 1792 après la Révolution française par François Guéroux, un industriel qui a créé la première filature mécanique de la vallée. Le site a ensuite été racheté par la famille Levavasseur, progressivement étendu, et c'est aussi effectivement la famille Levavasseur qui possédait le château à proximité, et puis la maison du directeur qu'on voit encore aujourd'hui, qui appartenait au propriétaire au XXe siècle.
Alors l'Andelle, qui est la rivière sur laquelle la force hydraulique était prise pour la filature, passe quand même dans toute la vallée. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Parce que là, on est éloigné de tout. Alors peut-être aujourd'hui, dans notre au XXIe siècle, on a l'impression que c'est éloigné de tout. Peut-être que ça ne l'était pas à l'époque, hein, je ne sais pas. Mais l'impression que c'est posé en plein milieu de nulle part. Il y a une raison à ça?
Alors c'est effectivement la force hydraulique de toute façon pour toutes ces industries, plus le fait de pouvoir facilement...
Mais ça, on la retrouve sur toute l'Andelle, cette
oui,
force hydraulique.
Tout à fait. Oui, exactement, ça a été exploité, vraiment toute la vallée de l'Andelle a été exploitée en termes industriels, et en fait un des arguments, c'est notamment l'acheminement vers Rouen via la voie fluviale, et qui permettait à la fois l'apport de matières premières, le coton par exemple, pour ce qui nous intéresse, arrivait d'Amérique, et puis ensuite le fait de faire repartir le produit fini, donc le fil qui alimentait le bassin normand.
Mais à cet endroit précisément de l'Andelle, j'ai l'impression que c'est presque l'endroit le plus paumé, presque. Il y a d'autres points dans l'Andelle qui. Alors peut-être que c'est avec les yeux du XXIe siècle. J'ai l'impression que c'est plus peuplé ou plus...
Alors,
j'ai l'impression qu'il n'y a rien autour aujourd'hui. Excusez-moi, c'est peut-être un peu naïf comme question, mais...
Non, pas de souci. Après, il y a certaines industries de cette période-là qui ont disparu, mais vraiment, c'était assez dense tout le long. Après, ce qui est vrai, c'est que nous, en tant qu'historiens et historiennes, on s'interroge un petit peu parce qu'on sait justement qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient aussi bien à la filature que dans les industries voisines. Pas suffisamment de logements à proximité pour que tout le monde soit sur place. Donc c'est vrai, on s'interroge et on n'a pas encore toutes les réponses sur les flux des personnes qui venaient travailler là.
Et du coup, cette filature, on peut la visiter
Alors, la filature est ponctuellement ouverte. Le département, cette année, propose deux dates d'ouverture, le 25 mai et le 31 août. Il reste encore des places pour le 31 août, mais dépêchez-vous, ça part très vite. Et la communauté de communes de Lyon-Sandelle organise également des visites sur réservation, pour lesquelles il faut s'approcher de l'Office du tourisme.
J'ai entendu dire que vous alliez faire des archives orales. Vous cherchez des témoignages, mais vous cherchez quoi exactement?
Alors tout à fait, dans la volonté en fait de compléter l'histoire de la filature qui a déjà été largement traitée par le service régional de l'inventaire, mais pour laquelle il nous reste quelques zones d'ombre, notamment parce que les archives ont souvent brûlé, parce qu'on n'a pas encore parlé des incendies, mais ça a été un site vraiment marqué par le feu. Donc comme les archives ont beaucoup disparu, on cherche en fait à compléter l'histoire de cette filature, et on fait pour cela appel à la mémoire des personnes personnes qui ont vécu à proximité, qui ont peut-être des personnes dans leur famille qui y ont travaillé, ou voilà, qui ont des souvenirs liés à la filature et qui nous permettraient de mieux comprendre voilà, ces zones d'ombre, de compléter son histoire.
Cette filature à la fermeture n'est pas devenue autre chose parce que c'est toujours cette question quand on parle, effectivement, il y a des incendies, il y a eu des choses comme ça, mais c'est des bâtiments robustes quand même, sur lesquels il y a, j'imagine, alors je ne suis pas du bâtiment, mais sûrement possibilité d'en faire quelque chose, hein, c'est quand même de la belle pierre et puis de belles installations. Quand l'activité s'arrête, il n'y a pas de projet, il y a des raisons peut-être à ça
Alors déjà, le bâtiment de la grande filature qui a brûlé très vite, en fait en 1874, a été entièrement détruit à cette occasion-là. Il est à l'état de ruine tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'a jamais été reconstruit, donc déjà cette partie-là était inexploitable. La petite filature brûle en 1946 et c'est ce qui conduit à la fermeture de l'activité. Donc déjà, on a quand même des bâtiments très en ruine à ce moment-là. Et effectivement, là aussi, une zone d'ombre sur l'histoire du site au XXe siècle. Ça ferme en 1946. On ne sait pas trop ce qui se passe entre les descendants jusqu'aux années 1960, où le site est mis en vente par l'eau. Certains lots sont vendus très vite, les logements ouvriers, la maison du directeur. La turbine sert toujours et est toujours exploitée par la Régie d'Elbeuf pour faire de l'électricité. Mais le reste reste à l'état d'abandon jusque dans les années 1990.
Je peux me permettre de revenir sur cette turbine, parce que là, ça me questionne. Cette turbine, qui était une turbine de la filature, est encore en exploitation aujourd'hui pour produire de l'électricité. C'était une turbine récente qui avait installée juste avant la disparition. Alors, enfin, comment ça se passe
C'est une turbine qui a été construite en 1923, au moment où on change la force motrice de l'usine, et effectivement, qui est toujours exploitée, parce que malgré tout, la force hydraulique ça marche toujours et donc voilà, ça continue.
Et une
à
turbine d'un siècle produit toujours de l'énergie.
Alors je suppose que quelques modifications ont été apportées pour améliorer sa performance, mais oui, en effet.
Sur cette filature, vous disiez qu'il y avait des visites possibles ponctuellement dans l'année. Est-ce qu'il y a des, comme sur d'autres sites, je sais pas, des recherches en cours, enfin la partie scientifique, on va dire historienne sur la filature, en dehors de ce collectage de paroles, est-ce qu'il y a des chantiers de, je sais pas, de conservation, de recherche, est-ce qu'il se passe quelque chose de cet ordre-là?
Alors, il se passe plein de choses. Effectivement, la collecte d'archives et de témoignages dont on parlait s'inscrit dans cette volonté de compléter l'histoire de la filature, ce qui passe aussi par des recherches dans les archives écrites qui sont conservées dans différents endroits et par des recherches minutieuses pour les retrouver, surtout.
On est dans le même cadre que l'archéologie ou pas? Parce qu'on a reçu régulièrement les recherches, notamment sur l'îlot Saint-Louis et tout. Les techniques sont les mêmes ou pas?
Alors pas tout à fait. Nous, on fouille moins dans la terre et on va plus voir les vieux papiers.
D'accord. C'est deux types de fouilles.
Et d'ailleurs, comment on fait pour participer aux archives orales s'il y en a qui ont des histoires à raconter sur la filature?
Oui, alors si parmi les auditeurs et les auditrices, certaines personnes ont effectivement des souvenirs de la filature ou des documents à nous partager, ils peuvent nous écrire à l'adresse suivante filature-levavasseur-info@heure.fr ou nous téléphoner au 02 27 34 00 69.
Quand on fait des recherches comme ça sur l'histoire contemporaine, presque, on a eu l'occasion de recevoir les services archéologie sur lesquels on parlait des gallo-romains, donc là on voit bien les hypothèses et puis la difficulté de trouver des éléments pour étayer les hypothèses, justement. Quand on est sur une filature Levavasseur, où vous parliez du XVIIIe siècle, la première construction, on aurait l'impression que tout devrait être accessible. Quels sont les éléments de l'histoire, peut-être, qui empêchent d'accéder à la filature en particulier, mais de manière générale aux bâtiments contemporains?
Alors,
l'histoire contemporaine.
Déjà les incendies, tout simplement. Quand les archives brûlent, on ne les a plus après. Et puis après, ce sont des aléas de conservation, notamment dans l'histoire industrielle. Les patrons, les entreprises n'ont pas toujours conscience de la valeur de leurs archives. Donc voilà, ce sont parfois des destructions massives, un peu un désintérêt par rapport à cette histoire, qui font qu'après, en tant qu'historien et historienne, on a du mal à retrouver la matière.
Quand on parle de la filature Levavasseur, on voyait bien, ça produit. Vous évoquiez tout à l'heure l'acheminement par voie fluviale des matières produites. Est-ce que du coup, il y a d'autres entreprises de la même époque ou d'autres, une autre activité économique était liée à la filature? Vous savez peut-être pas d'ailleurs, hein, je pose des questions comme ça, je veux tout savoir.
Non, alors comme je le disais, en fait, la vallée de l'Andale était très marquée par l'activité industrielle, donc effectivement il y avait des usines tout le long de l'Andale, et à ce sujet, une étude très complète a été menée par Emmanuel Réal du service régional de l'inventaire, que je vous invite à découvrir pour en savoir plus.
On la découvre où cette étude ?
Sur internet, bien sûr, sur le site du service régional de l'inventaire. Vous tapez Andale et vous aurez tous les dossiers qui sont liés aux industries.
Et du coup, bon, il va y avoir ces témoignages oraux. Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Est-ce qu'il y aura des travaux à venir, non, sur la filature ?
Alors tout à fait. En fait, l'année 2024 marque, enfin, le département en tout cas, essaye d'en faire une année un petit peu tournant pour la filature, puisque on célèbre, si on peut les célébrer, les 150 ans de l'incendie qui a détruit la grande filature. Et donc on profite de cette occasion pour à la fois lancer ce chantier de collecte d'archives et de témoignages, mais aussi un chantier plus concret de travaux pour dévégétaliser le site, le mettre en sécurité et pouvoir à terme l'ouvrir de manière un petit peu plus récurrente au public.
Et il y a d'autres projets sur le court ou le moyen terme ?
Oui, tout à fait. Alors, à même très proche terme, on essaye de valoriser ce site par des projets artistiques. On aura ainsi, lors des deux journées d'ouverture du 25 mai et du 31 août, des concerts en soirée. On a également un projet qui vise à valoriser le site par la musique, avec un artiste qui s'appelle Stéphane Norbert de Soloops, qui va travailler avec des enfants issus de l'aide sociale à l'enfance d'une structure qui s'appelle L'Envol. Et ils vont ensemble, grâce à une vingtaine de séances, créer... Voilà, un spectacle musical qui leur aura été inspiré par la filature.
Et puis c'est dans la continuité de d'autres projets, même plus anciens, artistiques. Souvent l'artistique et le patrimoine, je pense notamment aux journées du patrimoine à Gisacoum. Je regarde Eric parce qu'on a eu l'occasion de travailler la radio Principe Actif avec le département sur ces journées plusieurs fois. Lier finalement l'artistique contemporain et cette histoire patrimoniale, bah, ça a du sens et ça permet de la découvrir.
Et d'autant que à la filature Le Vavasseur est toujours visible une œuvre d'un artiste qui s'appelle Sébastien Fréchoux, qu'on a fait intervenir sur ce site lors des Journées du Patrimoine 2022. Et voilà, et cette œuvre est installée depuis septembre 2022 et elle n'a pas bougé. Voilà, donc les personnes qui pourront profiter des visites, notamment celles organisées par la communauté de communes, auront l'occasion de voir cette œuvre qui est toujours installée.
Merci beaucoup Catherine Herlaporte, chef de projet valorisation du patrimoine du département de l'Eure. J'imagine que sur le site on peut retrouver des onglets patrimoine sur lesquels on peut se tenir au courant de ce qui s'y passe, mais aussi de ce que vous y faites. Merci beaucoup Catherine d'être passée par nos micros. On vous garde avec nous quand même pour la fin de cette émission, mais merci d'avoir échangé avec nous sur cette filature Le Vavasseur. Nous partons en musique. Alors la programmation musicale, on ne l'a pas dit Florence, mais elle est en lien avec des événements, on en reparlera à l'agenda. C'est Liève qu'on va écouter maintenant, qu'on retrouvera à la médiathèque de Saint-André-de-l'Eure, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, le 4 mai.
Le 4 mai, Liève, A Woman. I used to give away. I used to sleep at night. Avec le titre Woman que nous retrouverons le 4 mai à la médiathèque de Saint-André de l'Eure. Et nous poursuivons cette émission comme oui. Nous vous l'avions promis.
Nous sommes avec Blandine Rotureau qui est la directrice de l'association La Source qui se situe dans le sud-ouest de l'Eure. Bonjour.
Bonjour.
Et donc du coup, vous êtes chargée du dispositif Hors les Murs. Alors déjà, qu'est-ce que c'est d'abord La Source? Et après, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que ce dispositif Hors les Murs?
Oui, le dispositif Hors les Murs, c'est un dispositif qui vient de se mettre en place. Mais pour rappel, La Source existe depuis 30 ans sur le département de l'Eure, hein, dans le sud de l'Eure, à la Guéroule de Breteuil. C'est une association qui a été créée il y a 30 ans par Gérard et Elisabeth Garouste, donc peintre contemporain qui vit à Marcilly-sur-Eure. Et on accueille depuis 30 ans des enfants, des adolescents et leurs familles à La Source pour faire de la création artistique et faire de la pratique artistique avec des artistes professionnels. Et depuis 2024, après 30 années d'expérience, on a eu envie de transférer, de transmettre, transposer notre savoir-faire sur l'ensemble du département de l'Eure.
Dans l'émission de La Source, il y a un axe quand même de médiation sociale à travers l'art. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que vous le dites, mais il y a vraiment cette dimension importante dans le fonctionnement de La Source qui est cette médiation sociale.
Oui, merci de le préciser parce qu'en fait, j'allais aller un peu vite. Et en effet, le cœur de notre métier, c'est le social et l'artistique. En fait, on se sert de l'art comme un levier aux difficultés sociales et éducatives des enfants et de leurs familles.
Alors, est-ce que je peux me permettre de demander, ça paraît peut-être pas si évident pour tout le monde, finalement, le lien entre social et art. Comment l'art est un outil social ?
Et bien aujourd'hui, et depuis 30 ans, on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants étaient en difficulté scolaire, sociale, avaient des parcours de vie pas toujours faciles, et qu'on pratique beaucoup de sport, on fait de la scolarité un peu classique, et l'art, en fait, c'est un vrai levier parce que ça permet à l'enfant d'imaginer, de sortir de son quotidien, d'être valorisé par une pratique qu'il ne connaît pas. Et puis, c'est surtout la rencontre avec un artiste qui va l'emmener au-dessus de ce qu'il connaît habituellement, et on s'appuie sur l'art pour vraiment lui permettre de prendre connaissance de son potentiel.
Et puis le meilleur allié, c'est le temps, parce que les artistes sont en résidence sur La Source, donc finalement c'est dans le temps que les choses se construisent aussi.
Oui, tout à fait.
Et donc dans les pratiques artistiques, c'est de la peinture, c'est sculpture, enfin vous faites un peu de tout?
Alors, à l'origine, comme c'est Gérard Garouste, on faisait plutôt de l'art visuel. Et puis, on a été accompagné par les institutions, hein, le département, la DRAC et tout ça, pour construire, il y a 12 ans, un studio de création. Donc, on essaye de développer l'art vivant. Alors, l'art vivant, ça peut être la danse contemporaine, ça peut être évidemment le théâtre. Mais par exemple, cette semaine, on accueille une slameuse parisienne avec les enfants d'Evreux, avec le programme de réussite éducative. Et aujourd'hui, ils vont présenter leur texte en slamant. Donc, on fait à la fois de l'art vivant et à la fois de l'art visuel.
Et puis l'avantage de l'art vivant, c'est qu'il fait souvent appel à l'art pictural notamment, ou à la création de décors, ou des choses comme ça. Je me souviens, moi, d'un projet autour de l'Odyssée d'Ulysse, il y a quelques temps, où clairement, ça mélangeait tout, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est l'art total.
C'est tout à fait, c'est exactement ça. C'était en 2019, l'année de mon arrivée. C'était un projet ambitieux, voilà, où on a créé, en effet, les décors. Les enfants ont beaucoup appris autour de l'Odyssée d'Ulysse. Et puis, ça a été une aventure humaine de plusieurs mois et les enfants sont sortis transformés. Enfin, si je peux me permettre, si ça ne fait pas trop prétentieux, mais c'est vraiment ce qu'on veut à la source aussi, c'est l'accompagnement sur plusieurs années, sur plusieurs mois de ces enfants qui ont une vie toujours pas facile, mais il n'y a pas que ça à la source. En fait, c'est une mixité sociale. On a des enfants qui ont un parcours de vie pas facile, mais on a aussi des enfants qui vont bien, si je peux me permettre de le dire comme ça. Puis, on accueille aussi tous les scolaires, puisqu'on est accompagné aussi. On a la chance d'avoir une enseignante mise à disposition au départ. À la source. Et donc, on accueille environ 1300 scolaires à l'année.
Nous venons d'évoquer ce qui se passe dans la source, mais il y a le projet Hors les Murs. Ouais. Et pourquoi alors qu'on dispose d'un tel dispositif, on irait hors les murs ?
Alors, on est parti de plusieurs constats. En fait, ça fonctionne à la source, c'est agréable, on atteint nos objectifs, si on peut parler comme ça. Et puis, on s'est dit en équipe, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce que on est quand même dans le sud de l'Eure, donc ça ne touche qu'une partie des habitants et des enfants et des adolescents du territoire, surtout de l'interco Normandie-Sud-Eure et un peu d'Évreux. Et on s'est dit, il faut qu'on propose notre savoir-faire auprès des publics un peu les plus éloignés, c'est-à-dire les petites écoles, du département de l'Eure, et puis surtout les maisons d'enfants à caractère social de l'aide sociale enfance du département. C'était une des raisons, mais il y avait aussi que la réalité aujourd'hui, c'est que pour des raisons économiques, venir jusqu'à la Guéroulde en bus, c'est compliqué. Hein, donc et puis le risque aussi qu'on faisait prendre aux enfants à venir tous les jours à la source pour pratiquer, pour faire un atelier de pratique artistique. On s'est dit, allez, on prend l'éducateur de la source et on prend des artistes et on va sur les lieux de vie des enfants.
Et du coup, quand les enfants vous voient arriver dans leur lieu de vie, donc leur petit cocon, on va dire, comment ils vous accueillent ? Quelles sont leurs questions, leurs appréhensions là-dessus ?
Alors, pour le moment, on a 12 ateliers de prévus jusqu'au mois d'août. On n'en a réalisé que 3, hein. 2 dans des écoles, une à Saint-Aubin-d'Écroville et une à Auville. Donc là, les maîtresses ont fait un travail remarquable de préparation où en amont, ils ont rencontré les artistes et puis donc les élèves étaient bien préparés. Après, notre format fait que ce sont les écoles et les maisons d'enfants qui organisent notre venue. Donc, sur certaines écoles, il y a une classe par jour. Sur une autre école, ça va être que les CM2. Enfin, voilà, c'est vraiment des projets d'école. C'est vraiment l'artiste, il fait partie de la vie de l'école pendant 5 jours. Et à la fin, il y a cette création collective qui fait que les enfants sont très fiers d'eux. Et puis, pour les maisons d'enfants, cette semaine, on est à Moisson-Nouvelle, à Évreux. Ça a été une vraie rencontre entre l'artiste, Pascal Chauhu et un groupe d'enfants, jusqu'à hier soir où ils étaient trop fiers de montrer leur chambre. Enfin, vraiment, ça a été un vrai moment de partage et de rencontre.
Pour un artiste, c'est une démarche particulière tout de même d'accompagner, parce qu'on voit bien l'artiste en création, l'artiste qui se nourrit aussi d'éléments ou autres, mais l'artiste en médiateur ou en animateur culturel, c'est quand même une autre posture. Est-ce que ça fait partie intrinsèquement de la démarche artistique? Est-ce que on les choisit sur le volet quand même, ces artistes?
En fait, vous soulevez deux choses. Il y a l'artiste, s'il postule à la source, c'est qu'il a envie de rencontrer des enfants, c'est qu'il a envie de la rencontre pour lui-même aussi. On prend des artistes, vous avez tout à l'heure parlé de la résidence. En fait, par exemple, pour ce projet Hors les Murs, on a pris 2 artistes qui sont venus déjà en résidence 3 mois avec nous, pour bien les connaître. Elles sont intervenues parce que c'est Pascal Chauhu, je tiens à les nommer, parce que c'est vraiment 2 artistes exceptionnels, et Amélie Vessière. Elles ont fait des ateliers scolaires avec nous et des ateliers sociaux. On les accompagne à aller encore plus loin dans leur rencontre avec les enfants, puisque là, on va sur les lieux de vie. Donc, c'est des artistes qui sont, en effet, repérés, avec qui on travaille. tout artiste ne peut pas transmettre et ne peut pas aussi recueillir ce que va lui renvoyer l'enfant, et notamment avec le public de l'aide sociale à l'enfance où les difficultés sont prégnantes, et grâce à l'art, ils arrivent à exprimer des choses, mais ils en parlent avec l'artiste, donc il faut aussi qu'on prépare nous, les artistes. Et puis l'artiste n'est jamais seul à la source, c'est aussi la spécificité, quel que soit le dispositif, que ce soit dans nos locaux ou dans le hors les murs, il y a toujours un médiateur de la source. Et souvent, majoritairement, à la source, il y a deux éducateurs spécialisés, il y a une conseillère en économique sociale et familiale, il y a une animatrice diplômée. C'est-à-dire que l'artiste, lui, il est vraiment sur sa pratique et sur sa transmission et sur sa réception aussi des émotions de l'enfant.
On vient de le toucher du doigt, c'est aussi comment l'artiste, alors là je prends l'autre pan, c'est comment l'artiste se nourrit aussi, parce que c'est très nourrissant en fait d'échanger avec des groupes d'enfants, de jeunes, de les avoir sur une durée, finalement ça nourrit aussi l'artiste, alors artistiquement ou pas ça je sais pas, mais en tout cas c'est nourrissant quand même.
Ah oui, c'est exactement ce qu'ils disent, les artistes qui viennent à la source vivent des moments intenses puisqu'ils arrivent avec un projet, le lundi par exemple, et toute la semaine ils vont être avec une école ou avec un groupe d'enfants, et en fait ça va modifier leur regard sur la pratique, sur la technique, ça va modifier aussi leur propre pratique. Souvent les artistes sont seuls dans leurs ateliers, hein, c'est la réalité, là c'est vraiment vivre l'expérience artistique pendant une semaine, pendant un mois, voilà.
Du coup, tout ce qui est créé, c'est gardé dans un cercle privé ou on peut le voir, c'est accessible à tout le monde ?
Non, Florence, c'est toujours exposé parce qu'à la source, le projet fait aussi partie, enfin le vernissage et les expositions font aussi partie du projet. On emmène les enfants exposés sur le Trocadéro, on emmène les enfants exposés au sein de l'hôtel du département, au sein de la préfecture. Là, le projet hors les murs avec les 6 maisons d'enfants à caractère social de l'aide sociale à l'enfance et le foyer de l'enfance, on a pour projet à la fin de cette année de faire une exposition dans un lieu culturel. On va rencontrer la direction de la culture, hein, et du patrimoine, parce que on veut que ça fasse tomber aussi des cartes, c'est-à-dire que les enfants ils puissent aussi emmener leur famille voir ce qu'ils ont été capables de faire au sein de leur maison d'enfants. C'est aussi permettre à des familles qui mettent pas souvent ou peu les pieds dans des lieux culturels, donc où il faut réfléchir si ça va être une médiathèque, si ça va être, enfin on va le travailler avec les services du département, mais ça a pour vocation d'être extériorisé. Et puis à la source, tous les ans, le deuxième samedi du mois de septembre, donc là ce sera le 14 septembre, on ouvre nos portes et pendant un mois, on expose tous les travaux des enfants, c'est-à-dire à peu près les 80 projets qui ont été réalisés.
Sur cet accès à la source, donc on vient de parler des portes ouvertes, hein, de l'exposition du deuxième samedi de septembre. Ça devenait compliqué à dire. Est-ce que finalement chaque structure peut rentrer en contact avec vous pour se dire tiens, j'ai envie de voir ce qu'on peut faire ensemble, parce qu'on a bien compris que les projets étaient dessinés presque individuellement, enfin pas presque, se dessinaient individuellement et c'était pas un projet clé en main, quoi. Est-ce que on encourage les structures, les écoles, les maisons de quartier, tout le monde à pouvoir prendre contact avec vous directement?
Oui, j'y sais. En fait, on est ouvert à tout le monde. Et puis surtout, je vous parle du social, je vous parle du scolaire, mais cet été, on va accueillir les centres sociaux. On va accueillir la MJC d'Evreux, on va accueillir un centre social de Cléon, on va accueillir les jeunes de la mairie de Saint-André-de-l'Eure, où ils viennent en séjour. On a aussi des demandes d'établissement d'éducation spécialisée. On fait tout ce qui concerne l'enfant, l'adolescent et la famille.
Eh bien, merci Blandine Roturo. On peut trouver des infos, j'imagine, sur Internet également. Tout à l'heure, Catherine nous disait on trouvait des infos sur Internet. J'imagine qu'on peut trouver aussi des infos sur La Source sur Internet.
Oui, alors c'est l'association La Source Garouste, puisque nous avons changé de nom. Nous sommes 10 sources en France maintenant. Donc nous, c'est lasourcegarouste.fr. Association.
Très bien, merci beaucoup Blandine Roturo, directrice de l'association La Source. Merci beaucoup d'être passée par nos micros. Et ça nous amène très directement sur cette fin d'émission avec les rendez-vous, oui, et l'agenda, Florence.
Tout à fait.
Tu nous as préparé un bel agenda en plus.
Ah bah oui, au mois de mai c'est très riche. À Harcourt, du coup, il y a les médiévales le 5 et le 6 mai. Alors si vous voulez vous essayer le lancer de hache, vous pouvez y aller.
C'était un rêve, comment tu sais, C'était mon rêve.
Voilà, c'est le 5 et 6 mai à Harcourt. Après, il y a bien sûr Pierre en Lumière du 17 au 19 mai. Dans les médiathèques, il y a des concerts. Donc, on a entendu deux musiques qui seront jouées. Donc, Liège le 4 mai à la médiathèque de Saint-André-de-l'Eure et Denver le 24 mai à la médiathèque de Louviers. Donc, il y a en tout 8 concerts sur l'année, si je ne me trompe pas, qui sont dans des médiathèques. C'est gratuit. Alors, allez-y, n'hésitez pas. Et il y a le festival Anthropocène.
C'est celui-là, oui, le festival Anthropocène. On ne peut pas le rater sur le département du 13 au 26 mai.
C'est ça. Et il y aura une expo sur aux archives départementales sur les inondations, en photo avant et après, enfin montrer jusqu'où l'eau a pu monter en 1910. À toi, JC.
Eh bien, il y a l'expo temporaire aussi au musée de Conches. Le musée de Conches, Antoine Leperlier, c'est donner forme au temps. C'est au musée du Vert et on vous invite bien entendu à y aller. Mais ce week-end, oui, directement, on termine par ça parce que c'est un immanquable, c'est le Pixel Fest. C'est 27-28, c'est à Gagny. C'est un grand rassemblement de rétro gaming.
Pour ceux qui adorent les jeux vidéo de l'époque, des années 80-90, il y a 80 consoles de jeux et il y a des tournois si vous voulez y participer.
Et le tout est gratuit. C'est ce week-end, samedi, dimanche, 27 et 28 avril, à Gagny. Il suffit de pousser la porte et d'y aller.
C'est ça.
Eh bien, ça nous amène à cette fin d'émission, Florence.
Oui, au 24 mai, alors à la prochaine émission du 24 mai.
Eh bien, on retrouve effectivement la chronique culture du département le 24 mai pour le deuxième numéro.
C'est ça. Au revoir.